Voici Raphaël Jacob.
16h51. Salut, Raph.
Salut, Pat.
OK, donc c'est le chaos présentement, là, électoralement parlant, dans un état-clé.
Le chaos, c'est le bon mot. Écoute, je vous avais parlé la semaine dernière, à la fin de la semaine, de la primaire du Wisconsin. Ça avait l'air d'être un enjeu qui est très, très lointain, qui était très lointain. Mais là, on est dedans aujourd'hui. Ça n'a tout simplement aucun bon sens. Qu'est-ce qui se passe? Bien, il se passe que l'État devait tenir sa primaire, parce qu'on le rappelle, on est en année d'élection présidentielle aux États-Unis entre Joe Biden et Bernie Sanders aujourd'hui. C'était prévu depuis des mois que ça allait avoir lieu le 7 avril. Et il y avait un débat très houleux au Wisconsin, à savoir est-ce qu'on reporte dans le temps le scrutin ou est-ce qu'on le tient le 7 avril comme promis. Et on était arrivé à une espèce de compromis un peu boboche dont je vous avais parlé la semaine dernière, dans lequel on tiendrait le scrutin, mais en réduisant de façon très prononcée le nombre de bureaux de scrutin qui allaient être ouverts. Et là, à la fin de la semaine, le gouverneur de l'État a dit « Écoutez, ça marche pas comme compromis, ça n'a pas de bon sens. Donc, je convoque les membres de l'Assemblée législative du Wisconsin pour essayer de les pousser à annuler le vote en personne. » Donc, il essaye ça, mais les membres de l'Assemblée législative, qui sont des élus eux aussi, refusent. Devant ce refus-là, le gouverneur, la veille du vote, ça c'était hier, décrète de façon unilatérale que la primaire va être repoussée au mois de juin. Réaction à ça, il y a une poursuite judiciaire qui est automatiquement lancée pour faire invalider la décision du gouverneur, qui est jugée abusive, et la Cour suprême de l'État, la Cour suprême du Wisconsin, bloque le décret du gouverneur et stipule que la primaire doit avoir lieu aujourd'hui, comme prévu originalement. Donc, si vous me demandez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, là, à 16h50, qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh bien, il y a des files de milliers de gens à la grandeur du Wisconsin qui se tiennent, soit dit en passant, souvent à 2 mètres l'un de l'autre pour aller voter. Ce qu'on a aussi annoncé, c'est que les votes ne seront pas comptés avant au moins la semaine prochaine. Et en plus de ça, il y a des milliers d'électeurs qui, dans le contexte, ont voulu voter par anticipation, donc voter par la poste. Le petit problème, leur bulletin de vote est arrivé trop tard pour qu'il puisse être renvoyé à temps et donc compté. Donc, pour tous ces milliers d'autres électeurs-là, ils ont été confrontés à un choix. Soit vous allez voter en personne ou vous sautez votre tour. Fait qu'imaginez un instant, là, juste un instant, si on est dans ces eaux-là, au mois de novembre, oui. Et que là, c'est pas une primaire dont on se soucie relativement peu, une primaire qui est plus vraiment compétitive, mais c'est l'élection générale pour la présidence des États-Unis, dans laquelle, faut-il le rappeler, un des candidats, soit le président sortant, Donald Trump, a déjà remis en question à plusieurs reprises l'intégrité même du système électoral américain avant même l'arrivée de la crise actuelle. Imaginez ce que ça pourrait donner.
OK, parfait. Raphaël, parle-moi du renvoi là, par M. Trump, en tout cas sa Maison-Blanche, de l'inspecteur, le chien de garde qui devait superviser la gestion des fonds d'urgence pour booster l'économie américaine.
Ben écoute, c'est que c'est un congédiement sur plusieurs en l'espace de moins d'une semaine. Donc, on a cette histoire-là, ça s'est tombé aujourd'hui. Glenn Fine, qui devait superviser la gestion du plan d'aide économique, qui avait été passé à la fin du mois dernier. On le rappelle, on parle d'un plan d'environ 2 000 milliards de dollars. Et donc, on avait mis quelqu'un en poste pour superviser cette gestion-là. Question qu'il n'y ait pas d'abus, ou en tout cas, qu'il y en ait le moins possible, qu'il n'y ait pas de fraude, pas de corruption. Qu'est-ce qu'on apprend? Que Donald Trump, le président, juge que c'est une position qui n'est pas nécessaire, qui est superflue, le congédie unilatéralement. Ça, c'est une histoire sur plusieurs. Parce que qu'est-ce qu'on a aussi appris depuis le début de la semaine? Que Donald Trump avait congédié un autre inspecteur du gouvernement fédéral américain, et pas n'importe lequel, celui qui avait informé le Congrès de la fameuse plainte logée par le sonneur d'alarme au sujet de l'appel entre Trump et le président ukrainien. Tu sais, l'espèce de crise autour de l'impeachment, ça semble très, très lointain, là, mais ça fait quand même quelques mois à peine. Et tout ça, tout le processus d'impeachment, de destitution du président Trump, ça avait été déclenché à cause de ce sonneur d'alarme-là et du fait que cette plainte-là avait été acheminée au Congrès. Et l'homme qui avait fait le pont entre les deux a également été congédié sans explication par Donald Trump. Et j'ajoute ceci rapidement, comme ce n'était pas assez. La Maison-Blanche a aussi, ou tout au moins l'administration Donald Trump, le secrétaire à la Navy, a également congédié un capitaine de bateau. Et ça, c'est comme scandale en soi, ça n'a aucun sens. Un capitaine de la Navy américaine au bord duquel il y avait des cas de coronavirus. Donc, des soldats, des marins américains qui étaient positifs à la COVID-19. Le capitaine en question a essayé lui aussi de sonner l'alarme, a émis une lettre disant, écoutez, il y a un problème grave, comment est-ce qu'on l'a remercié? Ben justement, en le remerciant, en le congédiant. Et pour ajouter insulte à l'injure, le secrétaire à la Navy de Donald Trump, après avoir congédié le capitaine en question, l'a traité sur la place publique de personne stupide. S'il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le secrétaire à la Navy en question, on l'a appris cet après-midi même, vient de démissionner, ou plutôt de se faire démissionner.
Merci beaucoup, Raph. On se reparle demain.
À demain.
Philippe, je veux revenir sur toute la question des scénarios. Je trouve ça fascinant parce que ce n'est pas qu'une question de virus. T'sais. On est dans l'épidémiologie, l'étude des populations. On est dans sociologie. Toute cette expérimentation de distanciation, c'est de la sociologie. Dans la psychologie, comment tu pousses les gens à se conformer, etc. Médecine, économie. Dans statistique, ce qu'on nous a présenté aujourd'hui, là, il y a des heures, il y a des décennies probablement de connaissances qui ont été utilisées pour faire ces projections-là. C'est une expérience humaine qu'on vit qui est pas très le fun, mais qui est fascinante.
Oui, tout à fait. Et je retiens la date du 18 avril, là, si on s'imaginait que le plateau, c'était pour le week-end prochain. Non, c'est beaucoup plus tard que ça.
OK, merci Philippe. C'est quoi, je vais te garder un petit peu. Tu as une petite nouvelle, on va en parler autour de table tantôt.
C'est là.
Tu vas nous plugger ça. On s'en vient avec les chroniqueurs de la prochaine heure et ils sont tous là. Luc Ferrandez, Pierre-Yves McSween et les accros.